Ce jour est dédié pour que la Géoula vienne très rapidement et que pour toutes les familles qui n'ont pas d'enfants, et beaucoup d'enfants rapidement, amen, en bonne santé. On va demander de faire un cours expliquant un peu quelques notions ilkhatiques de la halakha, de la loi juive. Qu'est-ce que c'est que la halakha? Qu'est-ce que c'est qu'un minhad, une coutume? La halakha, c'est la loi. Qu'est-ce que c'est qu'une coutume? Qu'est-ce que c'est qu'une khumra? Qu'est-ce que c'est qu'une kula? D'accord? On va s'expliquer un peu ces notions-là. La halakha, c'est la loi. La loi telle qu'elle est tranchée. Dans la Gemara, il y a beaucoup d'avis. Pour finir, après, la halakha, elle va trancher comme un avis, comme un autre avis. Il y a des lois aussi qui fixent comment on fixe la halakha. On travaille Rava, la halakha est comme Rava, à part dans 6 cas. On travaille Rav Yosef, la halakha est comme Rava, à part dans 3 cas. Rebbi contre un, alors la halakha est comme Rebbi. Rebbi contre plusieurs, la halakha est comme les plusieurs. On a une loi qu'on va d'après la majorité, on a une loi qui dit qu'on va d'après les rabbins les plus tardifs. Il y a beaucoup de lois. Et bon, ça, c'est l'histoire des grands, on va dire le travail des grands décisionnaires de trancher comment fixer la halakha. Le livre de base qui a fixé la halakha, c'est le Shulchan Aruch il y a 500 ans, se basant sur les grands décisionnaires du Moyen-Âge qui sont Maïmonide, le Rosh Rabbeinu Asher et le Rif Rabbi Yitzhak Elfassi. C'est les grands piliers de la halakha, d'autres aussi, et ainsi donc le Shulchan Aruch a été écrit par Rabbi Yosef Karo. Donc, c'est une base de la halakha, ce n'est pas dans tous les cas qu'on suit son avis, parce que la halakha, elle va, comme je dis, d'après les derniers rabbins de chaque génération, qu'eux ont une vue plus large. Ils voient d'autres avis, ils voient des choses qui contredisent ce qu'a dit le Shulchan Aruch. La halakha, en tout cas, pour définir le terme, c'est la loi qui est obligatoire. Maintenant, dans la halakha, des fois, il y a ce qui s'appelle un lechatrila et un diavad. Lechatrila, c'est a priori, il faut faire comme ça. Bediavad, si tu, a priori, tu n'as pas fait comme il fallait, bediavad, a posteriori, c'est valable quand même. Par exemple, quelqu'un maintenant, il a une casserole dans laquelle a été cuite du lait et après a été cuite de la viande. D'accord ? Cette casserole, on n'a pas le droit de l'utiliser, elle doit être cachérisée. Maintenant, si 24 heures sont passées, on dit que le goût qui est imbibé, qui a absorbé la casserole, il est altéré. Alors, on n'a pas le droit d'utiliser la casserole, ça c'est l'échatrila a priori. Maintenant, si quelqu'un par mégarde s'est trompé, il a pris la casserole, il a cuisiné son steak dedans. D'accord ? Si 24 heures sont passées depuis la cuisson du lait ou de la viande de façon interdite, le steak est permis. On appelle ça un bediavad, quand ça a déjà été fait. On ne va pas te dire maintenant, a priori, tu n'as pas le droit d'utiliser la casserole. Celui qui le fait de façon préméditée, il fait un interdit. Mais dans tous les cas, si déjà ça a été fait, même de façon préméditée, le plat qui a été cuisiné, donc le steak ici en l'occurrence, il est kasher. On appelle cela bediavad. Il y a aussi une notion qui s'appelle que dans les situations de très grande pression, très grande nécessité, même un lechatrila est considéré comme un diavad. Je vais expliquer. Par exemple, tu as fait tchouva, tu viens chez tes parents ils ne mangent pas kasher. Maintenant, ta mère va absolument que tu manges chez elle, et donc elle t'a acheté un bon steak kasher. D'accord ? Maintenant, toi, tu sais qu'elle va utiliser le steak dans une casserole non cachérisée. Tu dis, maman, il faut cachériser la casserole. Tu me casses les pieds, j'ai acheté un steak, ça suffit. D'accord ? Attends, si tu ne manges pas, ça va faire un scandale diplomatique grave. D'accord ? Si on peut faire passer et dire non, non, ok, ça passe. Mais si ça ne passe pas, alors Dieu aime le shalom, il aime le kibboud avehem, il aime l'honneur qu'on fait aux parents. Bien que je sais, l'echatrila a priori, que ma mère veut utiliser maintenant une casserole non cachère pour cuisiner le steak, si je sais que 24 heures sont passées depuis la dernière cuisson interdite, je peux manger le steak. Pourquoi ? Bien qu'on ait une situation de a priori, elle n'a pas encore cuisiné, elle va cuisiner, mais vu que c'est une situation de très grande pression, une situation de nécessité très grande parce que le shalom c'est important, le kibboud avehem c'est important, donc dans ces cas-là où c'est vraiment très 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 difficile, alors on peut considérer une très grande nécessité comme un bediavad, comme si, ok, vu que de toute façon, en cas où ça a été fait, c'est permis, dans ton cas, c'est comme si, on peut considérer comme si... Même si ça change la casserole du porc ou viande, les viandes, c'est pas plus grave, c'est pas moins grave que le porc. Hein. Le porc, les gens, Baruch Hashem, qu'ils ont une peur. Shabbat, c'est bien plus grave que le porc. D'accord, les gens allument Shabbat, etc. Shabbat est bien plus important que Kippour. Alors, Yosef, il dit, on va pas leur dire ça, parce qu'après, on dit, ah, c'est comme ça. Bon, alors, même Kippour aussi, on peut allumer la lumière, d'accord. Alors, on leur dit rien. Mais si les gens comprenaient, c'est bien plus grave de transgresser Shabbat que de manger du porc, que de transgresser Kippour, que de, qu'est-ce que tu as d'autre, d'accord, que de manger du serpent. D'accord, c'est bien plus grave Shabbat. Mais dans ta chaîne, que les gens fassent Shuvah et fassent tout Shabbat comme il faut bien. Maintenant, il y a une notion qui s'appelle Minhag. Minhag, c'est coutume. Il y a des coutumes qui sont obligatoires. Par exemple, maintenant, on est dans les 9 jours, depuis Rosh Chodesh Av jusqu'au 9 Av. Il y a une coutume, c'est qu'une coutume, mais elle est obligatoire pour tout Israël de ne pas manger de viande. D'accord? C'est une coutume. Rosh Chodesh, aussi Ashkenazim, Rosh Sfaradim, ils mangent la viande, mais dès le lendemain, le 2 Av, on ne mange plus de viande. C'est qu'une coutume, à la base, sur la Gemara, dans la Ram, il n'y a rien du tout là-dessus. C'est une coutume qui est instituée par les rabbins des différentes époques, et c'est une coutume qui est devenue maintenant un minhag obligatoire, un minhag, une coutume obligatoire. Nos frères Ashkenaz ne mangent pas de riz à Pessah, c'est obligatoire. C'est une coutume, mais c'est obligatoire. Donc il y a des coutumes qui sont comme ça, obligatoires. Il y a des coutumes qui ne sont pas obligatoires. Manger des beignets à Hanouka, très bien, c'est bien. Mais quelqu'un qui n'a pas mangé des beignets, ce n'est pas la fin des haricots, d'accord. C'est une coutume, c'est bien, ce n'est pas obligatoire. Quoi encore comme coutume? Il y a une coutume de rester réveillé toute la nuit de Shavuot et toute la nuit de Hoshana Rabba pour étudier la Torah. C'est une coutume, voilà, ok, celui qui ne veut pas le faire, c'est pas, il ne va pas en enfer pour ça, d'accord. C'est juste bien. Et les coutumes, minhag, dit le rabbi Yosef, c'est la même lettre que le mot Gehenam, enfer, d'accord. Celui qui les fait, il va en enfer. Et des coutumes tordues, d'accord. Alors, par exemple, le rabbi Yosef, il dit, pas tout le monde est d'accord là-dessus. C'est son avis à lui. Le rabbi Sambah Shaoul dit qu'il n'y a pas de problème. Mais lui, il dit que, par exemple, il y a des femmes qui ont la coutume de d'abord allumer les bougies, à faire des bougies de Shabbat, et après faire la bracha. Il dit, comme ça faisait ma grand-mère. Lui, il dit, c'est une coutume Gehenom, d'enfer, d'accord? Bracha le batala. D'autres disent, comme le rabbi Sambah Shaoul, qu'il n'y a aucun problème à cela. Chacun fera comme sa grand-mère faisait, aucun problème. S'il ne sait pas comment faire, alors c'est mieux, effectivement, d'abord faire la bracha, et après allumer. Mais si on fait le contraire, ça va. Alors, il y a certaines coutumes qui sont des coutumes tordues, d'accord? Laissez-moi réfléchir à une coutume qui est tordue, Gehenam.
Pendant les mariages, quand on casse le verre, ça ne sera plus la destruction du temple.
Ouais. Ça, c'est une coutume, ouais. Alors, par exemple, casser le verre à un mariage, c'est une coutume. Si on n'a pas fait, ça va, on est marié. Les gens mettent plus l'accent sur ça qu'autre chose. Par contre, il y a une coutume qui est mauvaise. C'est que dès qu'il y a cassé le verre, la musique commence, tout le monde crie Mazal Tov. C'est une erreur. Pourquoi on casse le verre? Pour souvenir que le temple est détruit et, si je ne me souviens pas de Jérusalem, que se colle ma langue à mon palais. Si je ne te montre pas au sommet de ma joie. Le sommet de ma joie, c'est le mariage. Donc on fait un petit acte pour se rappeler de la destruction du temple et qu'on est encore en exil. Et tout le monde crie Mazal Tov, quoi Mazal Tov, le temple est détruit. Alors il faut attendre quelques secondes, 1, 2, 3, et après on crie Mazal Tov et on est joyeux toute la vie, Bezrat Hashem. Ça c'est pour le mot Minhag. Maintenant, oui.
Peut-être un autre exemple à Shavuot, ceux qui font des batailles d'eau.
Je ne connais pas Shavuot, les batailles d'eau. Qu'est-ce que c'est?
Non, mais j'ai vu ça dans l'Oran Halakha. Il part que des fois, il y a des certains endroits où à Shavuot, ils se balancent de l'eau comme ça.
Ah ouais? À Shavuot?
Ouais, des œufs aussi.
Des œufs?
C'est un mauvais miracle.
Bon, on parle maintenant d'une coutume qui effectivement a l'air très très bizarre, de se jeter de l'eau et des œufs à Shavuot. D'accord? Mauvaise coutume. Ça ne manque pas. Hélas, il y a des mauvaises coutumes, des bonnes coutumes, des coutumes qui sont obligatoires. Qu'est-ce que c'est que la Khumra? Qu'est-ce que c'est que la Kula? Khumra signifie être sévère. Kula signifie être laxiste. Dans certains cas, on dira que c'est bien d'être mahmir, c'est-à-dire, il y a deux avis. Prenons un exemple, le rabbi Yosef, il autorise un bishul goyim, une cuisson d'un élément qui ne peut pas se manger cru, s'il est cuit par un non-juif, si ça a lieu dans la cuisine d'un juif et que le juif a allumé le feu. Normalement, c'est interdit. Le rabbi Yosef, il permet cela. Et il dit à Mahmir, ta voilà bracha. Celui qui va néanmoins interdire, ne pas le faire, ne pas manger un plat pareil, il sera béni. Alors ce n'est pas obligatoire. Du point de vue de la loi stricte, on peut autoriser. Mais c'est bien d'être Mahmir, c'est bien de ne pas l'autoriser. C'est bien, ce n'est pas obligatoire. D'accord? Et comme ça, pour beaucoup de lois. Par exemple, Shabbat, on peut verser du café dans l'eau bouillante. D'accord? J'ai un verre maintenant d'eau bouillante, je mets dedans du café. Il y a un avis, c'est le rabbin Eliezer de Metz, d'accord, un rabbin médiéval, qui dit qu'il y a un problème de coloration. La halakha, c'est faux. parce qu'on peut colorer dans les aliments, c'est permis complètement. Mais néanmoins, vu qu'il y a un avis d'un rabbin important qui le dit, qui est cité dans Shulchan Aruch, c'est bien, c'est pas obligatoire de faire autrement. Comment ? On met le café et après on verse l'eau dessus. Comme ça, la coloration est moins évidente. Alors c'est un plus, c'est pas obligatoire. D'accord ? Pour le Bishul Goyim, par exemple, j'ai vu dernièrement le rabbin Abachou, il a écrit, est-ce qu'il y a du Bishul Goyim dans le café ? Il dit non. C'est-à-dire que même si le café a été torréfié, il a été cuit au four, d'accord, par les goïms, c'est permis de le boire. Même Midat Hassidut, c'est bien, c'est mesure de piété, c'est bien d'être marmir, c'est bien, c'est pas obligatoire, de ne pas boire du café qui provient de l'étranger que du café halit d'Israël, qui un temps était moins bon, mais aujourd'hui, ça se vaut plus ou moins. Be'ezrat Hashem. Donc ça, c'est la khumra. La kula, c'est le contraire, c'est être laxiste. Alors, par exemple, on va dire sur certaines halachot, le rav Benson Abashoglu est plus marmir, il est plus. Cherchons un exemple. Voilà, maintenant on est dans les 9 jours du mois de Av, d'accord ? La semaine dans laquelle tombe le 9 Av, on ne peut pas se laver. Le rav Benson Abashoglu lui dit on ne peut pas se laver du tout, à moins qu'on sente mauvais, très mauvais, donc là on va se laver pour pas gêner les gens. Mais se laver ni à l'eau froide ni à l'eau chaude. Tout ce qu'on peut, c'est se laver à l'eau froide, le visage, les mains et les pieds. Ça, c'est la vie du Rav Ben Sion. Maintenant, le Rav Ovadia Yosef, lui, il est mekel, il est plus léger, d'accord ? On peut dire que le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Sion, il est plus marmir, peu importe. Un qui est plus laxiste, un qui est plus sévère. Lui, il dit, à l'eau froide, tu peux laver tout le corps entier, aucun problème avec du savon, il n'y a pas de problème. Ce qui est interdit, c'est l'eau chaude. Et même l'eau froide, on peut un peu, là, quand elle est glacée, on peut un peu mettre, un peu mélanger un peu d'eau chaude, que ça soit tiède, pas trop chaud, mais... Froid, pas trop, d'accord ? Froid, pas trop. 28 degrés, comme ça, c'est encore froid, mais c'est plus supportable qu'un 5 degrés, d'accord ? Alors, on dira que un, il est marmir, un, il est plus rigoureux, l'autre est plus laxé. Chacun pense qu'il a raison complètement dans l'alakha. Et il ne te dira pas que tu peux faire comme l'autre. Enfin, le Rav Ovadia Yosef n'est pas contre que tu sois marmir, mais il dit, tu n'es pas obligé, tu peux faire comme je dis. Alors, personne dit, non, tu dois faire comme moi, il ne faut pas faire comme dit le Rav Ovadia Yosef. Donc, nous, quand on donne cours, on dit le Rav Ben Sion, il est marmir, il est plus sévère, le Rav Ovadia Yosef, il est plus mekel. Chacun ira d'après son Rav. Si on n'a pas de Rav attitré, alors la loi est comme ça. Quand c'est une loi d'Erabanan, comme par exemple, je ne pas se laver pendant la semaine de Tisha B'Av, c'est une loi d'Erabanan, on peut être laxiste. Quand c'est une loi d'Oraïta, quand ça touche à un interdit de la Torah, alors il faut être marmir, il faut prendre l'avis plus rigoureux. C'est un principe qui s'appelle Safek des Rabbanan les Koula. Quand on a un doute à propos d'une loi des sages d'Israël, on peut prendre les Koula, être laxiste. Safek de Horaïta les Khumra, quand on a un Safek à propos d'une loi de la Torah, on doit être marmir, on doit être plus rigoureux. Le Rav Ovadia Yosef autorise de remettre sur la plata qui est chaude un plat qui était entièrement cuit, donc qui a bouilli, qui est entièrement cuit, qui contient peu de liquide. Une minorité de liquide par rapport à l'essentiel qui est le solide. D'accord ? Il dit aucun Shabbat. Il dit qu'on peut faire ça sans problème. Alors, Bessin Abachou, il dit ça fait ce qu'il a. C'est un doute de lapidation. Peut-être en train de cuire maintenant. Il y a une marque loquette. Si il y a une cuisson après cuisson d'une chose qui est liquide, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ceux qui disent que oui, maintenant, tu es en train de faire un interdit de la Torah, pas des Rabbanan. Donc, dans un cas pareil, si quelqu'un n'a pas un rabbin attitré, c'est bien de prendre l'avis rigoureux et non l'avis laxiste, parce qu'on joue maintenant avec un interdit de la Torah. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.